France Culture, il est midi 31. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Demande de baisse d'impôts et de justice fiscale, mais aussi d'écologie et de santé. Depuis ce matin, Édouard Philippe tire le bilan des centaines de milliers de propositions citoyennes issues des deux mois de grand débat national lancé face à la crise des gilets jaunes.
Taxer les géants du numérique pour montrer la voie en dépit de l'opposition des États-Unis.
Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, donnera cet après-midi le coup d'envoi des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi visant les GAFA.
Au moins 32 personnes ont été tuées et 50 autres blessées depuis le début jeudi dernier de l'offensive du maréchal Haftar contre la capitale libyenne.
Une offensive qui se poursuit malgré donc les appels internationaux à la cessation des hostilités faisant craindre un conflit généralisé. Enfin, la justice russe a levé ce matin l'assignation à résidence du metteur en scène et réalisateur Kirill Serebrennikov, jugé pour des faits présumés de malversation financière, accusation de détournement de fonds fermement rejetée par celui dont le dernier film Leto était en compétition l'an dernier au Festival de Cannes. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Oui, Europe, le moment de vérité toute cette semaine, la grande table passe à l'heure européenne avec cinq grandes voix des idées, cinq grandes voix européennes. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre et réagir derrière le hashtag Votre Europe. Aujourd'hui, rendez-vous avec l'essayiste et documentariste franco-allemande Géraldine Schwartz. L'Europe est-elle malade de sa mémoire? C'est la question que nous lui poserons.
Merci, à tout à l'heure. Quand la toute nouvelle porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye promet que rien ne sera comme avant, le Premier ministre promet lui d'ores et déjà des solutions puissante. Depuis ce matin et au surlendemain de l'acte 21 des Gilets jaunes, près de la moitié du gouvernement, plusieurs responsables administratifs, mais aussi de simples citoyens, sans oublier les cinq garants du grand débat, sont réunis à Paris pour une synthèse baptisée Restitution et censée dresser donc un premier bilan de ces trois mois de grande psychothérapie collective qui aura vu pas moins de 10 000 réunions se tenir localement partout en France. Quelques 16 000 cahiers de doléances noircies d'aspirations aussi multiples que contradictoires et des centaines de milliers de contributions citoyennes déposées sur la plateforme en ligne du gouvernement. Au total, plus d'1,5 million de personnes ont participé directement à cette vaste consultation nationale. Un véritable succès donc, mais aussitôt lesté d'un amas de doutes. Comment retranscrire une parole aussi foisonnante sans se heurter à un mur d'incompréhension? Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du Grand Palais où le Premier ministre vient tout juste de terminer sa présentation donc de sa synthèse, 1500 pages établies à partir des doléances des Français. Et avant lui, Anne, ce sont les différents organismes missionnés pour cette restitution qui ont donné leurs premiers résultats.
Oui, c'était une restitution assez impressionniste. Il fallait garder les nuances de la parole citoyenne, a justifié la garante Isabelle Falque-Pierrotin en introduction. Imaginez trois colonnes, des pourcentages à gauche, des arbres dits de connaissances au centre et des pétales de fleurs à droite. Les pourcentages pour les données de la plateforme Internet, les arbres de connaissances pour les cahiers de doléances, les courriers envoyés à la mission du Grand Débat et les réunions d'initiatives locales. Ce sont des représentations imagées et structurées de la somme des idées qui se sont exprimées, concept inventé par le mathématicien Michel Autier en lien avec le philosophe Michel Serres. Le tronc représente le consensus, les branches, les sous-thèmes rassembleurs et puis enfin, les idées exprimées dans les conférences citoyennes régionales avec les adultes et les jeunes tirés au sort, elles étaient présentées sous forme de pétales de fleurs.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend, Anne, sur les quatre thèmes du grand débat ?
Qu'il y a une volonté d'agir pour la transition écologique. 86% des contributeurs de la plateforme pensent qu'ils ont un rôle à jouer et que c'est générateur d'économie. Et dans les conférences citoyennes, on demande aussi une nouvelle gouvernance pour accélérer la transition écologique. Sur la fiscalité et les dépenses publiques, plusieurs pistes évoquées. Faire contribuer tout le monde à l'impôt sur le revenu, la suppression des niches fiscales, une plus grande transparence dans l'utilisation des impôts. Et puis le seul poste de dépense pour lequel les participants du Grand Débat se déclarent prêts à payer plus concerne la santé. La santé qui fait partie des premières préoccupations des participants avec la lutte contre la pauvreté et la dépendance. C'est ce qui ressort aussi de ce grand débat, en plus des quatre thèmes définis par le gouvernement. Concernant la citoyenneté et la démocratie sur la plateforme, il y a une demande forte de suppression du nombre de parlementaires, de mise en œuvre de la proportionnelle, de prise en compte du vote blanc. 20% des contributeurs proposent aussi la suppression du Conseil économique et social et du Sénat, alors que dans les réunions d'initiatives locales, les personnes demandent d'insérer des collèges citoyens dans les instances existantes. Les revendications sur l'organisation coopération de l'État et les services publics sont synonymes de demande de proximité et de simplification des démarches administratives. Enfin, les revendications initiales des Gilets jaunes, mise en œuvre du référendum d'initiative citoyen, le rétablissement de l'ISF, la suppression des 80 km/h, eh bien, elles se retrouvent dans les cahiers de doléances, qu'on appelle maintenant d'ailleurs cahiers citoyens, mais pas du tout dans les autres supports. Une restitution dans le détail est disponible dès maintenant sur le site internet du granddebat.fr.
Merci Anne Fauquemberg en direct du Grand Palais ainsi qu'à Frédéric Quéroux pour les moyens techniques. Et puis j'ajoute qu'après cette synthèse, donc Édouard Philippe fera demain une déclaration à la tribune de l'Assemblée suivie d'un débat sans vote, même exercice mercredi devant le Sénat. De son côté, l'Élysée a confirmé que le chef de l'État annoncerait des premières mesures à la mi-avril. Il pourrait ainsi égrener des décisions jusqu'à l'été, enjambant donc les européennes du 26 mai. Alors on l'a dit, pour l'exécutif, cet exercice de restitution s'annonce pour le moins périlleux. La semaine dernière, déjà, un sondage établissait que 68% des sondés estiment que les points de vue exprimés ne seront pas pris en compte. Et près de 80% jugent que le grand débat ne résoudra pas la crise politique actuelle. Et pour continuer d'évoquer cette actualité, invitée de la rédaction aujourd'hui, Marion Roth, directrice du think tank Décider Ensemble. Bonjour madame.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Steven Goyer. Bonjour Steven.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
La retranscription de ce grand débat risque inévitablement de nourrir le scepticisme de l'opinion. Et à ce titre, il était assez intéressant dès hier de noter qu'au moment même où le gouvernement expliquait déjà que le rétablissement de l'ISF réclamé dès le début du mouvement par les Gilets jaunes s'était progressivement dilué, je cite, avec d'autres préoccupations, que seuls 10% des contributeurs réclamaient effectivement son rétablissement. Le même jour, hier, donc, un sondage de l'IFOP nous apprenait, lui, que le retour de l'impôt sur la fortune était massivement soutenu en France, 77% des personnes interrogées. Comment expliquer une telle contradiction? Faut-il en déduire une sorte de surreprésentation de certains publics, ou à l'inverse une sous-représentation dans ce grand débat, qui serait de nature à biaiser du coup les conclusions qui pourraient en être tirées?
En fait, la contradiction, elle tient dans la différence qu'il y a entre un grand débat national et un sondage. Un sondage doit viser la représentativité de la population française. Or, dans le grand débat, ça n'était pas forcément visé. On a donc observé qu'il y a eu des populations, des catégories de la population qui ne participaient pas ou peu. Et c'est notamment le cas des Gilets jaunes, ce qui implique en fait la dilution de leurs revendications. Vous avez cité l'ISF, mais on peut aussi citer le RIC, qui n'est mentionné que par 5,8% des contributeurs.
Une question de Steven Goyer.
1 500 000 participants à ce grand débat. Si l'on englobe les comptes de la plateforme en ligne, des réunions et des cahiers de doléances, ça ne représente que 3% du corps électoral aujourd'hui. Comment expliquer cette participation assez limitée, somme toute ?
Alors, c'est quand même une participation qui est assez importante dans le cadre d'une consultation. Elle est quand même assez massive et elle touche une grande partie de la population, même s'il y a eu des manques, des lacunes. On a quand même réussi pour la première fois à faire participer l'ensemble de la France et pas uniquement métropolitaine. Après, c'est le principe de tout dispositif de participation que d'avoir du mal à toucher l'intégralité de la population. Il y a eu plusieurs problèmes. D'abord, tout un problème de méthodologie qui a nourri le scepticisme, vous l'avez dit, d'une partie des Français. On a eu aussi certains Français qui ne percevaient pas l'intérêt à aller participer à ce type de débat. Et puis des gens qui estiment avoir fait leur travail de citoyen en ayant voté.
Et vous parliez justement de la méthodologie. Les cinq garants, ils ont aussi rendu leurs conclusions ce matin et ils ont dit regretter que les thèmes aient été fixés par le chef de l'État et que la formulation des questions ait été, je cite, excessivement binaire. Vous-même, vous aviez signé une tribune en janvier pour réclamer que les décideurs fassent appel à des institutions indépendantes pour l'organisation de ce grand débat. Avec le recul, quel regard vous portez justement sur sa mise en place, sur la méthode utilisée?
Mais effectivement, c'est essentiel. Quand on met en place un dispositif de participation citoyenne, on est obligé de faire appel à des tiers garants, des garants neutres qui vont être en charge de garantir l'indépendance du débat. Alors ça a été fait avec les cinq garants. Malheureusement, il est évident que le problème de biais qui avait été noté dès le début a persisté tout au long du débat. Alors après, ça a été un peu récupéré, on va dire réparé, notamment lors des conférences citoyennes régionales. Mais effectivement, c'est un problème qui a persisté. Et donc, comme les questions étaient biaisées de base, les résultats sont biaisés aussi.
Et donc, résultat, justement, dans un récent sondage, on le disait, près de 8 Français sur 10 estiment que ce grand débat ne va rien résoudre. Alors même si la participation mince, le mouvement des Gilets jaunes ne s'est pas arrêté non plus, côté opinion publique, est-ce que c'est vraiment vraiment une réussite, comme le disent les membres du gouvernement.
Alors, c'est une réussite pour une partie des Français qui ont eu l'impression d'avoir pu s'exprimer, qui d'ailleurs l'ont fait, un peu plus d'un million, c'est quand même assez assez énorme. Sur les Gilets jaunes, qui de toute façon étaient opposés de base à la politique gouvernementale, effectivement, les réponses n'ont pas été apportées et il n'est pas sûr que la crise soit vraiment terminée de ce côté-là.
Et justement, ce grand débat, il était inscrit dans un temps bien défini. À terme, est-ce que ça peut changer nos pratiques démocratiques ? Qu'est-ce que ça peut changer à nos pratiques démocratiques ?
Alors, on peut l'espérer que ça va changer nos pratiques démocratiques. On le sait, c'est en fait, les problèmes de la démocratie ne datent pas des Gilets jaunes. On avait déjà eu Nuit debout il y a quelques années, et c'est en fait un mouvement assez lent de délitement entre le peuple et leurs représentants. Et effectivement, on peut espérer que ce grand débat va être une occasion de poursuivre cette dynamique, de plus grandes consultations, de plus grands dialogues entre les représentants et les représentés.
Donc, c'est un cap franchi vers plus de démocratie participative tout de même.
Je pense que ça peut l'être, oui. Enfin, en tout cas, il faut l'espérer. À mon avis, du côté du gouvernement, ça leur a démontré qu'il était quand même utile d'aller voir le peuple et que le peuple n'était pas non plus une espèce de foule complètement irrationnelle et qu'elle était tout à fait en capacité de faire des propositions concrètes et qui soient étayées par un grand nombre d'arguments. Donc oui, à mon avis, le changement est là. Après, comme tout changement de mentalité, ça prend du temps, en fait.
Dernière question, la démocratie participative, est-ce que c'est une chimère ou un idéal réalisable ?
Non, c'est un idéal qui est tout à fait réalisable. Il y a de nombreux pays qui le font déjà. Ne serait-ce qu'à côté de nous, il y a la Belgique, le Parlement germanophone, qui a décidé de se doter d'un Parlement parallèle qui serait composé à 100% de citoyens tirés au sort et qui permettrait d'enrichir les réflexions du Parlement germanophone. En Irlande, ce sont des citoyens tirés au sort qui ont permis de faire avancer considérablement les questions de société, notamment la légalisation du droit à l'avortement et la reconnaissance du mariage pour les couples de même sexe. Donc oui, la démocratie participative, elle existe et c'est une réalité.
Et on terminera par ces mots. Merci donc Marion Roth, directrice du Think Tank Décider Ensemble, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Steven Gouaillet. C'était au mois de décembre dernier, en pleine crise justement des Gilets jaunes. Emmanuel Macron promettait l'instauration d'une taxe censée contribuer à financer les 10 milliards d'euros de mesures d'urgence économique et sociale. Et cet après-midi, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, va donc donner le coup d'envoi de 3 jours de débat à l'Assemblée sur un projet de loi visant les GAFA, acronyme pour Google, Amazon, Facebook et Apple, comprenez, les géants du numérique. Marie Vino, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette taxe GAFA à la française s'inspire en réalité d'un projet européen, mais qui, le mois dernier, n'avait pas abouti faute de consensus entre les 28 États membres. Du coup, la France a décidé de se lancer seule dans cette bataille au risque de froisser Washington, qui la juge extrêmement discriminatoire à l'égard des multinationales basées aux États-Unis. Concrètement, Marie, il s'agira surtout d'essayer de contourner les failles d'un système, le système actuel de taxation des entreprises, lequel s'avère inadapté avec celle du numérique.
Oui, aujourd'hui, le principe d'imposition des entreprises repose sur les bénéfices qui sont réalisés dans le pays. Dès lors, le calcul de ce bénéfice est crucial. Le réduire au maximum dans les pays qui l'imposent le plus, un sport pratiqué depuis longtemps par les multinationales. Mais les entreprises du numérique ont un avantage en plus. Vendre leurs services dans un pays et donc y gagner de l'argent ne requiert pas de présence physique, le siège social, lieu de vente, ni même humaine. L'idée de la taxe GAFA, c'est donc de taxer le chiffre d'affaires qui est réalisé par les entreprises du numérique en France. Pas toutes les entreprises, seulement celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros dans le monde et 25 millions en France, ce qui cible une trentaine de groupes, et pas tous les revenus. La taxe de 3% s'appliquera à 3 activités, la publicité en ligne, la vente des données personnelles des internautes et les revenus tirés en tant qu'intermédiaire de vente. Le problème de taille, c'est qu'à l'heure où les députés examinent ce texte, la façon de calculer ce revenu France des activités numériques n'est pas très robuste. Bercy veut appliquer au chiffre d'affaires mondial de l'entreprise un coefficient de présence numérique en France, mais ce calcul n'a jamais été fait encore, et celles qui le feront, ce calcul, sont les entreprises numériques que l'on veut taxer. Tout repose donc sur leur calcul à elles, calcul qui pourra ensuite être remis en cause lors d'un contrôle fiscal, mais ce sera quand même très compliqué à prouver. Alors Bercy envisage 400 millions d'euros de rentrée fiscale en 2019 de cette taxe GAFA, puis 650 millions entre 2020 et 2022, trop peu pour les députés insoumis et les républicains qui vont certainement s'opposer à ce texte pour son manque d'ambition.
Merci Marie Viennot. Les suites du procès du frère du tueur djihadiste Mohamed Merah Abdelkader. Aujourd'hui, la cour d'assises spéciale doit aborder les faits et les assassinats commis à l'école juive. Ce matin, la cour a commencé par donner la parole à Samuel Sandler, le grand-père d'Arié et Gabriel, tués alors qu'ils avaient respectivement 5 et 3 ans. Avant d'entendre un autre témoin, un ancien élève de l'établissement. Compte rendu d'audience signé Florence Turm.
J'ai perdu ma maman à l'âge de 10 ans et je n'aurais jamais cru qu'à l'âge de 17 ans, j'allais être confrontée à l'horreur. Il en a 24 aujourd'hui, grand jeune homme brun aux petites lunettes, élève avocat qui exprime sa confiance en la justice française. Et il parle de cette magnifique école, 200 élèves de la primaire à la terminale, mais pas de distinction d'âge entre nous. De la petite Myriam, ce visage d'ange qu'on n'oublie pas, d'Arié et Gabriel, petits mais généreux déjà. C'était, dit-il, des enfants. Rien que des enfants. Voix posée, l'émotion envahit la salle. Le jour de l'attentat, Jonathan était à l'intérieur quand il entend les coups de feu. Je suis le plus grand des élèves. En fait, je ne suis qu'un bébé, mais je suis le plus grand. Alors il rassemble les plus jeunes qui s'accrochent à lui et les emmène au réfectoire. L'enfer, l'horreur, tout ce que vous ne voulez pas vivre, souffle le jeune homme. Vous le vivez là. Pendant 3 heures, une cinquantaine d'élèves qui hurlent, pleurent, tapent du poing contre le mur. Il se rappelle encore un gamin de 13-14 ans qui hurle à s'en déchirer les vêtements, à se griffer le visage. C'est pas quelque chose qu'on est supposé vivre quand on a 14 ans, quelque chose qu'on est supposé vivre dans une vie, répète-t-il. Les plaies sont toujours ouvertes aujourd'hui. Jonathan explique avoir peur dans le métro, au cinéma, aux terrasses des cafés. Et si les preuves permettent de retenir la complicité, conclut-il, j'espère qu'elle le sera. Juste avant lui, Samuel Sandler avait cité Camus. On ne pense pas mal parce qu'on est meurtrier, on est meurtrier parce qu'on pense mal. C'est ainsi, termine-t-il, en appuyant sur les mots mais sans en regard pour l'accusé, qu'on peut être meurtrier sans avoir tué, apparemment.
Voilà plusieurs semaines déjà que Donald Trump multipliait les signes d'impatience, sinon de frustration face à ce que le chef de la Maison-Blanche perçoit comme une absence de progrès significatif sur un dossier qui reste un marqueur de sa présidence, la lutte contre l'immigration. Hier, après avoir de nouveau menacé le Mexique d'une fermeture de la frontière et quelques jours après avoir changé de candidat à la direction de la police anti-immigration, Donald Trump a annoncé cette fois-ci le départ de sa ministre de la Sécurité intérieure. La bataille de Tripoli aura-t-elle lieu malgré les appels lancés par la communauté internationale pour faire cesser l'offensive sur la capitale libyenne? Le maréchal Haftar poursuit son offensive. De violents combats ont encore opposé hier les forces du chef militaire des forces rebelles aux troupes du gouvernement d'Union nationale. À l'évidence, le maréchal n'a que faire des appels internationaux à la cessation des hostilités. Il faut dire que les grandes puissances elles-mêmes ne sont pas parvenues à se mettre d'accord à l'ONU sur une position commune concernant cette crise libyenne. Et puis on l'a appris récemment, une semaine seulement avant de lancer son assaut sur la capitale, Khalifa Haftar s'est rendu à Riyad. D'où cette question, se pourrait-il que le maréchal ait agi avec l'aval de l'Arabie Saoudite? Les précisions de notre correspondant dans la région, Maureen Mercier.
Un militaire reçu par les plus hautes instances du royaume, c'est suffisamment rare pour le souligner. Riyad aurait donné son feu vert à l'attaque de Tripoli. L'Arabie Saoudite craint les ouvertures démocratiques dans les pays de la région. La Libye ne fait pas exception, mais impossible d'en avoir la confirmation. Est-elle même nécessaire? Le général Haftar n'a pas attendu l'appui de l'Arabie Saoudite, si celui-ci devait être confirmé, pour nourrir des ambitions nationales. Depuis son retour des États-Unis, après la révolution de 2011, il ne cesse de tenter de se rapprocher du pouvoir. En 2014, il tente un coup d'État. En septembre 2016, ses forces s'emparent du croissant pétrolier, la principale plateforme d'exportation du brut libyen située sur la côte méditerranéenne. Ensuite, il progresse dans le sud du pays. Depuis, il ne cesse de proclamer qu'il libérerait Tripoli des mains des milices. Arabie Saoudite ou pas, depuis des années, le général marche méthodiquement à la conquête du pouvoir. L'erreur des chancelleries est sans doute de ne pas l'avoir vu venir. Aujourd'hui, il risque de plonger le pays dans la guerre civile. Il a déjà réussi à mettre à mal le processus politique pour ramener la stabilité en Libye. La conférence du 14 avril, censée réunir toutes les parties libyennes pour construire les bases d'un État, semble bien compromise.
Le Parlement algérien élira demain un nouveau président par intérim. A priori, c'est Abdelkader Ben Salah, le président de la Chambre haute du Parlement, qui devrait assurer cet intérim jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle, laquelle devra avoir lieu dans les 90 jours. Sauf que les manifestants, eux, ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne voulaient pas d'Abdelkader Ben Salah, pas plus d'ailleurs que du Premier ministre, ni du président du Conseil constitutionnel, parce qu'ils sont aujourd'hui considérés comme la vieille garde qui a permis à Abdelaziz Bouteflika de rester au pouvoir 20 années durant. Des milliers de Soudanais ont défilé ce week-end pour réclamer la démission du président Omar el-Béchir. Certains manifestants sont notamment parvenus à atteindre le quartier général de l'armée, une première en 4 mois de contestation anti-gouvernementale, afin de demander à l'armée de choisir, je cite, entre son peuple et le dictateur. Très tôt ce matin, plusieurs véhicules transportant des forces de sécurité ont pris position près du quartier général. À 2 jours d'élections législatives qui pourraient s'avérer serrées, le Premier ministre israélien, manifestement fébrile, a décidé d'engager un nouveau virage à droite, tout en brandissant le spectre d'une défaite de son parti. Benjamin Netanyahou a promis d'annexer les colonies israéliennes en cas de victoire de son camp. Une annonce pour le moins radicale, jugée d'ailleurs irresponsable par son principal rival, Benny Gantz, et qui compromet surtout la solution à 2 États. Une prise de position qui ne surprendra pas grand monde, en revanche, étant entendu qu'en 2015 déjà, lors de la précédente campagne, Netanyahou avait affirmé son opposition à un État palestinien pour s'attirer à la toute fin les voix de la droite dure. C'est une correspondance à Jérusalem signée Étienne Monin.
Et le Premier ministre a lancé une guerre de mouvements dans la dernière ligne droite de ses élections. Il est sur plusieurs médias institutionnels qu'il a contourné pendant la campagne au profit des réseaux sociaux. Il a 2 messages à faire passer. D'abord, le Likoud est en danger. Il faut se mobiliser, il faut aller voter. Ensuite, je suis dans le camp de la droite annexionniste aux côtés des colons. D'où ces vidéos à répétition. Et cette promesse d'annexer les colonies en cas de victoire, c'est une position radicale et unilatérale dans la gestion du conflit. Elle signe la mise à mort d'une solution négociée et elle condamne encore un peu plus clairement la solution à 2 États. Avec cette position, le Premier ministre cherche à siphonner les voix des partis d'extrême droite soutenus par les colons. Il s'aligne également sur le comité central du Likoud qui avait pris une résolution dans ce sens il y a 1 an. Le Premier ministre cherche à basculer en tête du vote demain soir. Il veut tuer l'hypothèse d'un parti centriste fort avec une demi-douzaine de sièges d'avance qui pourrait prétendre alors à tenter de former une coalition. Il s'inquiète aussi de la position d'un des partis pivots à droite qui pourrait jouer la surenchère. Mais le coup du virage à droite au moment du vote a déjà été fait en 2015 et la sincérité de cette prise de position est limitée. Récemment, Benjamin Netanyahou a écarté des textes de loi pour annexer justement les grands blocs de colonies. L'effet pourrait donc être limité, mais la promesse est là, jugée irresponsable par son principal opposant Benny Gantz.
Une semaine décisive débute pour la première ministre britannique Theresa May, pressée de trouver un compromis sur le Brexit avant le sommet européen extraordinaire de mercredi, lors duquel elle plaidera pour un report de la date de sortie de son pays de l'UE. Theresa May est attendue demain à Berlin pour s'entretenir avec la chancelière Angela Merkel, mais aussi à Paris où elle sera reçue à l'Elysée. Théoriquement, le Brexit est toujours programmé pour vendredi. Après 20 ans de règne, le sort de Carlos Ghosn en tant qu'administrateur de Nissan a été scellé ce matin par les actionnaires du constructeur japonais qui ont voté pour la révocation de son mandat, de quoi couper désormais tout lien avec celui qui aura dirigé le groupe pendant près de deux décennies et se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux. La levée de son assignation à résidence lui permettra-t-elle finalement d'assister au Festival d'Avignon, lui qui jusque-là était présenté comme la grande star absente de la 73e édition du plus prestigieux festival de théâtre au monde. Toujours est-il que ce matin, le cinéaste et metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, a été remis en liberté sous caution. Claude Brouillot, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Moscou. Ce n'est pas facile psychologiquement, mais je vais revenir au travail. Nous avons tant à faire. Voilà donc les premiers mots ce matin de Serebrennikov à l'annoncé de la levée de son assignation à résidence. Le metteur en scène retrouve une partie, on l'a dit, de sa liberté de mouvement. Et puis surtout, au-delà, Claude, cette affaire illustre bien la pression qui est exercée aujourd'hui par le régime et plus généralement d'ailleurs les milieux ultra-conservateurs sur toutes celles et tous ceux qui iraient un peu trop loin dans la critique du pouvoir.
Oui, alors absolument. Alors si on fait un petit peu la chronologie, le 2 avril dernier, le tribunal de Mechianski à Moscou avait prolongé l'assignation à résidence de Kirill Serebrennikov jusqu'en juillet prochain, soit près de 2 ans après le prononcé de la décision initiale ce matin. Donc un peu à la surprise générale, l'étau se desserre quelque peu. La juridiction supérieure, le tribunal municipal de la capitale russe a donc modifié la mesure de contrainte imposée au metteur en scène moscovite, qui a dû tout de même donc s'engager par écrit à ne pas quitter le pays, mais qui retrouve donc une partie de sa liberté de mouvement. Cet élargissement, en quelque sorte, concerne également les autres personnes poursuivies depuis l'été 2017 pour détournement de fonds publics. Kirill Serebrennikov a toujours nié les accusations, mais faute d'avoir obtenu jusque-là la levée de cette assignation à résidence, il continuait à travailler depuis son domicile. Son procès, qui dure depuis plusieurs mois maintenant, a été dès le départ interprété par ses nombreux soutiens ici en Russie, mais également dans les pays occidentaux, en France notamment, comme une affaire montée de toutes pièces. À l'époque de son interpellation, eh bien, Serebrennikov mettait la dernière main à un spectacle pour le Bolchoï sur la vie de l'icône de la danse Rudolf Nureyev, dissident célèbre de la période soviétique, à l'homosexualité affichée. Certaines scènes avaient été jugées déplacées par les autorités et quelques semaines plus tard, Serebrennikov était accusé d'avoir détourné des aides de l'État. Alors, le spectacle du Bolchoï, lui, avait ensuite été réajusté en quelque sorte par un autre metteur en scène. Serebrennikov, assigné à résidence, n'avait pas eu l'autorisation notamment de se rendre au Festival de Cannes l'an dernier pour présenter son dernier film, Lietom, l'été en russe, avec à l'époque ce commentaire de Vladimir Poutine qui avait été sollicité pour l'occasion. La justice russe est indépendante. Aujourd'hui donc, le fait que Serebrennikov retrouve une partie de sa liberté va lui permettre de mieux travailler d'un point de vue purement matériel et technique, bien sûr, mais l'interdiction donc de quitter la Russie et la surveillance qui va continuer à s'exercer sur ses travaux ne garantissent absolument pas qu'il sera évidemment totalement en phase avec le génie créateur que beaucoup lui reconnaissent en Russie à l'étranger. Mais tout de même, pour terminer, Thomas, Kirill Serebrennikov a également déclaré ce matin qu'il allait continuer à se battre pour prouver son innocence.
Merci Claude Brouillot en direct de Moscou. On termine avec un mot rapide de météo. Ciel gris et nuageux sur tout le pays. Quant aux températures, elles varieront entre 12 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par François-Charles Demergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.